français, Betachem, les dinim de Bichoul. On va apprendre d'abord la généralité. Dinim de Bichoul, c'est-à-dire tous les dinim qui sont liés à la cuisson. La cuisson. Donc ça fait partie des halachot qui sont les plus compliquées de Shabbat. On a étudié jusqu'à présent la halachot de Borer. Borer, c'est trier. Maintenant, on va étudier ensemble la halachot de Bichoul, la halachot de la cuisson.
Par rapport à Shabbat, tu veux dire?
Par rapport à Shabbat, bien sûr. Par rapport à Shabbat et par rapport à Yom Tov. D'abord, on va parler de Shabbat, puisque c'est pas les mêmes halachot du tout, Shabbat et Yom Tov. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on doit d'abord expliquer certaines généralités. Quelles sont les généralités qu'on va expliquer? D'abord, premièrement, quand on parle de cuisson, c'est pas seulement la cuisson. Normalement, la cuisson en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire cuire. Alors, la cuisson, normalement, à proprement parler, mais vachel, bichoul, si on traduisait littéralement, ça veut dire quoi, bichoul, Yaakov, cuire?
Cuire, ça veut dire passer du...
Ça veut dire cuire dans une marmite. Dans un ustensile. Ça, c'est la traduction littérale de bichoul, c'est ça. D'accord? Traduction littérale de bichoul, c'est cuire. D'accord? Cuire, donc, avec de l'eau. Quand on va, donc, on va, comment on appelle ça? On va macérer ça, enfin, dans de l'eau. Et ça va cuire. Ça, c'est la définition de bichoul. Mais, ça, c'est la définition de bichoul dans la traduction du mot. Mais dans le sens que le chamim veut dire, bichoul, ça veut pas dire que ça. Bichoul, ça veut dire cuire. Ça veut dire aussi griller. D'accord? Ça veut dire aussi la cuisson au four. Ça veut dire tout ça, c'est inclus dans bichoul. Le principe de bichoul, comme c'est expliqué en Shulchan Aruch, c'est tout ce qui rend un aliment comestible au travers du feu.
La cuisson.
Non, pas la cuisson du feu. Au travers du feu. Par exemple, la grillade, c'est pas de la cuisson.
Ouais, tu prends un feu, tu l'embroches. D'accord? Tu le fais.
C'est pas de la cuisson. Mais j'ai rendu de la viande comestible avec la chaleur du feu ou bien avec un dérivé du feu. Comme on expliquera après, un dérivé du feu, ça peut être par exemple. Alors, on expliquera après que la seule exception, c'est le soleil. Mais on peut avoir beaucoup de dérivés du feu, quelque chose qui n'est pas du feu, mais qui est de la chaleur.
Bah, si le soleil, ça marche.
Par exemple, je pose quelque chose sur ma plata ou sur une plaque à induction. C'est pas du feu. C'est pas du feu, mais c'est un dérivé du feu. C'est une plaque chauffante.
Et le soleil, non.
D'accord. Le soleil, on verra après. Le soleil, c'est une exception particulière.
Je mets deux œufs sur la plata.
Ah, le soleil, on verra après. Mais là, en tout cas...
Razak.
Alors, Razak. C'est pas des croissants. Alors.
Quoi, c'est pas des croissants?
Je sais, je me dis, bah ça y est, j'ai...
Razak, bon.
Non, c'est trop là, trois chacun, c'est trop là.
Mais non, j'ai une dizaine.
Razak. Donc on est en train d'expliquer, bon c'est à la mémoire de, pour le mérite de...
Non, c'est pas encore le yom, mais bon, c'est comme ça.
Le farbringen de Shabbat.
C'est pas parce qu'on est un vendredi de pont et qu'il y a venu machin qu'on n'aura pas notre dose.
D'accord. De graisse.
Non, de mésonote pour étudier à toi.
Bien sûr. Donc on est en train de dire qu'on a commencé les dinim de bichoul, les dinim de la cuisson. On a expliqué que la définition de cuisson dans la Torah, c'est pas seulement cuire dans une marmite, mais c'est tout aliment qui va devenir comestible grâce au feu ou à un dérivé du feu, comme la plaque chauffante. Je prends quelque chose, je pose sur une plaque chauffante. Ça va être contact avec le feu. Mais...
C'est un dérivé du feu.
D'accord, c'est un dérivé du feu, donc ça s'appelle bichoul.
Bichoul.
Minatora. Ça s'appelle bichoul minatora. Bon. Alors, quelle chaleur, quand on parle du feu, d'accord, le feu, c'est le feu, c'est à partir de quelle température? C'est à partir du température de ce qu'on appellera plus tard Yad Soledetbo. Yad Soledetbo, c'est-à-dire qu'il faut que la main soit légèrement brûlé ou qu'elle a mal quand elle touche une eau qui a cette chaleur. Donc ça a été évalué aujourd'hui à environ 45 degrés. D'accord? 45 degrés. 45 degrés, on considère que 45 degrés,
c'est
la main quand elle touche, 45. Enfin, il y en a qui disent 42.
Ah voilà.
Alors, mais ça a été fixé, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a fixé ça à 45. Et 45, d'accord, 45 degrés, on dit pas que tu vas à l'hôpital quand tu as touché de 45 degrés, mais ça fait mal. C'est-à-dire que Soledetbo, est-ce que moi je suis fini?
Les bacilles meurent à 43 degrés.
Soledetbo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la main, quand la main touche, on a envie d'enlever sa main. Il y a un réflexe qu'on a envie d'enlever sa main. D'accord? Ça s'appelle Soledetbo. Un café, c'est combien, monsieur Bismuth?
Non, c'est 70 degrés. Encore, il y a le temps qui... Mais je sais que la température alimentaire, dans les services d'hygiène des restaurants,
oui,
on doit servir à table un repas quand il est chaud à 70 degrés.
70 degrés, d'accord.
À 70 degrés, t'es sûr tant que ça?
Mais tu ne touches pas.
Ça paraît énorme.
Ah bah, une cuisson, c'est même 100 degrés.
La cuisson, 100 degrés.
Une soupe, un machin. Et tu peux la servir à 70.
L'ébullition, c'est à 100 degrés, c'est ça?
Ouais.
C'est à 100 degrés, l'ébullition.
Ouais. Il n'y a pas rapport avec la peau du bébé?
La peau du bébé.
Yad Soledadbo?
Non, rien à voir. Yad Soledadbo, ça veut dire que la main, d'accord? Oui, mais là, la définition. Oui, mais la définition de Yad Soledadbo, c'est que, je parle de la traduction de Yad Soledadbo, c'est-à-dire que la main, elle se retire.
Soledad, ça veut dire se retirer?
Oui, c'est-à-dire qu'elle a un réflexe de vouloir se retirer. D'accord? Donc on a donné deux généralités. Première généralité, on a dit que la cuisson, c'est pas seulement que la cuisson à proprement parler, c'est-à-dire dans la marmite. D'accord?
Je ne sers pas le premier.
D'accord? Mais on a expliqué que la cuisson, c'est tout la cuisson et tous ses dérivés. Deuxième chose qu'on a expliqué, d'accord, c'est que la température qui a été fixée par les Chachamim, c'est une température de 45 degrés. Il y en a qui disent 42, il y en a qui disent 43. D'accord. Bon, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est quand même une référence sur ça. Elle lui dit 45 degrés.
Ceci dit, à Shabbat, on pourrait savoir si c'est 43, 45 ou 43.
J'ai raison, oui. J'ai raison.
Au Shabbat, donc.
Oui.
Au Shabbat, on prend pas de risque.
J'ai raison. Il faut bien donner une mesure. À partir de combien on considère que.
En admettant, mais est-ce que le type pourrait savoir s'il a fait la Avera ou pas, s'il a mené à 45 degrés ou pas. Il ne pourrait pas savoir.
Si, ça veut dire que si par exemple j'ai une plata, d'accord, que cette température elle monte à 35 degrés. Je me suis arrangé pour que la chaleur de la plata ne dépasse pas 35 degrés.
Tu fais tourner toute ta bouche, que tu le saches.
Non, d'accord, je pose un exemple. Et j'ai envie de poser dessus de l'eau. Est-ce que j'ai le droit? J'ai le droit. Pas de problème.
D'accord. Actuellement, la plata, elle est à 35 degrés. Si tu poses
de combien
la plata, elle doit au moins à 60 degrés au moins.
Elle a 100 degrés, la plata. 100 degrés.
Mais ta main mathématique sur la plata, tu vois.
Ah, bien sûr, ça. Non, c'est pas 100 degrés.
Tu peux pas rajouter de l'eau, alors.
Tu mets de l'eau et tu mets un couvercle bien couvert. Tu verras qu'elle est en ébullition au bout d'une heure, c'est vrai.
Au bout d'une heure, donc elle n'est pas à 100 degrés.
Ben si, oui, seulement elle n'est plus à 100 degrés, elle n'est pas à 150 ou à 600 comme du gaz allumé.
C'est pas 100 degrés, ça.
Donc la chaleur, ouais. elle va lentement.
Va lentement, je comprends. Bon, en tout cas, ça c'est les deux principes qu'on a expliqués. Maintenant, un troisième principe. Quand on parle de... Une troisième généralité sur la lachot de Bichoul. Quand on parle de Bichoul pendant Shabbat, on va devoir différencier, c'est un principe très important à se rappeler ça, parce que sinon on ne comprendra rien du tout dans la suite.
Les liquides, d'accord, et les solides.
Avant d'arriver à ça. Encore plus important que ça, il y a le principe de Keli Rishon, Keli Sheni. Ouais. Alors, ça c'est très important à comprendre. D'accord? Premièrement, on a ce qu'on appelle Keli Rishon. Keli Rishon, ça veut dire quoi? Keli Rishon, c'est littéralement, ça veut dire le premier ustensile. Ça veut dire l'ustensile dans lequel j'ai fait cuire. D'accord? Même si l'ustensile n'est plus sur le feu, il a toujours la définition de Keli Rishon. Ouais. D'accord? Vous me suivez?
Oui.
Alors, Il a toujours la définition de Keli Rishon, à condition qu'il est toujours brûlant.
Yad
Soledadbo. Mais s'il est sur le feu, même s'il n'est pas Yad Soledadbo, il a toujours la définition de Keli Rishon, puisqu'en potentiel, il va devenir Yad Soledadbo. Donc encore une fois, c'est quoi Keli Rishon? Keli Rishon, c'est qu'on appelle le premier ustensile, ça veut dire c'est l'ustensile dans lequel on a cuit donc l'aliment. S'il est en dehors du feu, il faut qu'il est encore brûlant, il faut qu'il est encore à 45 degrés. Il y a de Soledadbo. S'il est sur le feu, même s'il est encore tiède, c'est déjà considéré Keli Rishon, halakhiquement. Donc Keli Rishon, c'est le premier ustensile dans lequel on a cuit. On a cuit l'aliment ou l'eau. D'accord? On développera Bezrat Hashem, c'est ce que des généralités. Deuxième principe, d'accord? Deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle Irouï mi Keli Rishon. Irouï, ça veut dire verser. C'est un G. Un jet d'un Keli Rishon. Ça veut dire quoi? Par exemple, j'ai un koumkoum plein d'eau, d'accord? Et je vais verser de l'eau de ce koumkoum-là sur un aliment que j'ai envie de chauffer, ou sur un aliment. Donc là, c'est pas un Keli Sheni. Keli Sheni, c'est déjà un deuxième ustensile. Là, c'est pas un deuxième ustensile. C'est ce qu'on appelle Irouï mi Keli Rishon. C'est un jet qui provient directement du premier Keli. Parce qu'on expliquera après que plus on passe par des ustensiles, et chaque fois les parois des ustensiles vont refroidir à chaque fois l'aliment. C'est comme ça. D'accord? Chaque fois les parois des ustensiles vont refroidir l'aliment. Plus on est en contact avec les parois, et plus ça va refroidir l'aliment. C'est comme ça, c'est un principe.
Ça commence d'ailleurs quand il fait chaud,
mais c'est pour ça c'est une technique, hein. C'est une technique que quand vous voulez refroidir un aliment pour des enfants par exemple. D'accord? Non, même si vous restez dans la même assiette, vous le coupez en plusieurs morceaux, et vous ramenez l'aliment vers les parois. Dès que c'est en contact avec les parois, tout de suite c'est refroidi. C'est comme ça. Alors, Irouï Miklirishon, on n'est pas encore arrivé à ça. Irouï Miklirishon, c'est quand on a un G du premier ustensile. Ça veut dire que, voilà, j'ai par exemple ici, qu'est-ce qu'on va donner comme exemple, hein, monsieur Bismuth? J'ai de l'eau chaude et je vais verser sur quoi pour l'eau chauffer?
Quand tu es en train de parler de genre la purée qui va prendre sur les bords.
Non.
Parce que ça se refroidit plus. Réfléchissez.
Il y a un exemple encore plus simple.
Tu prends quoi, d'un verre à l'autre?
Non, encore plus simple. Je prends le koum-koum. J'ai un verre dans lequel j'ai déjà de l'eau. D'accord. Et je vais prendre le koum-koum et je vais directement verser de l'eau dedans. D'accord. Je viens d'avoir un Irui Miklirishon. Je viens d'avoir un G d'un Klirishon. Bah oui. Donc le cas classique, c'est quoi le cas classique? Je prends un verre qui est encore mouillé.
Ouais.
Je prends un verre qui est encore mouillé, d'accord? Et je me sers directement du koum-koum. Je viens de faire un interdit. Bah oui. Parce que c'est Irui Miklirishon, c'est pas Klisheni, hein. Moi je me dis oui, c'est Klisheni, c'est deuxième ustensile, c'est pas grave, c'est pas Klisheni.
Parce qu'il y a de l'eau.
D'accord? Oui, parce qu'il y a de l'eau. D'accord, parce que l'eau qui descend, au moment où elle est en train de descendre, on l'appelle Irui Miklirishon. C'est le jet du Klirishon. D'accord? Du premier ustensile. Et ça, c'est pratiquement comme Klirishon, comme on expliquera après. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Klisheni. Klisheni, c'est l'eau une fois qu'elle est arrivée dans le verre de café. Donc on a le koum-koum, on a expliqué, c'est Klirishon. Ensuite, j'ai le jet du koum-koum. Et ensuite, j'ai Klisheni, c'est quoi Klisheni? D'accord? Klisheni, c'est un deuxième. Donc voilà, c'est mon verre. Très bien. Ensuite, d'accord? Ensuite, on a Irui Klisheni. D'accord? Irui Klisheni, ça veut dire quoi? C'est le jet du Klisheni. Donc, ça veut dire mon café, je vais le prendre maintenant. Cette eau-là, je vais la prendre. Je vais la verser dans un autre ustensile. Donc, c'est le jet du Klisheni. Et enfin, la cinquième catégorie, c'est Klishlishi, le troisième ustensile. Ça, c'est pratiquement, considéré quand on arrive avec Klishlishi, c'est pratiquement, il n'y a plus de problème. D'accord? Oui. On expliquera bien dans ta chaîne. Donc, combien de catégories on a eu ici? 5. D'accord? Parce qu'on a 3 ustensiles, et plus les jets du numéro 1 au numéro 2, et le jet du numéro 2 au numéro 3. Parce qu'au moment du jet, il y a encore une chaleur particulière. Avant. Ah oui. Parce qu'au moment que tu es en train, au moment du jet, il y a encore une chaleur qui est, on va dire, intermédiaire. D'accord? Parce que ça a quitté le cocon, du premier ustensile, mais ça n'a pas encore touché les parois du deuxième ustensile, donc c'est encore une grande chaleur. D'accord? Donc on a 5 catégories. Ça, c'est encore une autre généralité qu'il faut comprendre. Encore une autre généralité. Donc on a eu 3 généralités déjà. On a expliqué que cuisson, c'est pas seulement cuire dans le feu, c'est cuire avec tout ce qui va être avec une source de chaleur, d'accord, qui va rendre un aliment comestible. On a expliqué aussi que ce qu'on considère comme la chaleur, c'est à partir de 45 degrés. On a expliqué aussi qu'il y a 5 catégories d'ustensiles. C'est important de comprendre ça, puisque après, on aura différentes halakhot. Et à chaque fois, on dira, ça dépend que les riches et que les chenis. C'est très compliqué, la halakhot de Bichoul. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement de réviser ces halakhot-là. Dans le livre Shmirat Shabbat, en français, enfin, je suppose que vous l'avez à la maison, sinon il faut lâcher d'urgence.
Alors, il est en plusieurs tomes.
Deux tomes. Oui, j'ai vu que vous l'avez amené. Un livre qu'il faut acheter d'urgence, un livre qu'il faut avoir dans toute maison juive, un livre de base. Alors,
c'est fait par qui?
Abner, viens, on va étudier un peu. Par le Rav Neubert, hein? D'ailleurs, il a fait une deuxième édition. Il a ressorti l'année dernière. Il a fait une deuxième édition de son livre. Il a fait que le premier tome. Dans une deuxième édition révisée que j'ai chez moi à la maison avec laquelle je prépare. D'accord? Il y a pas mal de différences, et surtout dans les cas modernes. Il y a beaucoup de cas modernes qui n'existaient pas à l'époque. Ça a été fait, il me semble, il y a 30 ans.
C'est un contemporain, le Rav Neubert?
Oui, il est vivant encore. Il est déjà assez âgé, mais il est vivant.
Il est aux États-Unis?
Non, il est en Israël. Il est en Israël. Il y a 40 ans. D'accord.
Et pourquoi il a fait une deuxième édition par rapport aux nouveautés qu'il y a aujourd'hui?
Bien sûr, beaucoup de nouveautés. Eh bien, pas seulement ça. Avec le temps, il a révisé son livre. Enfin, il a révisé son livre.
Il y a 30 ans,
Ouais. Il y a 40 ans, sans tâcher de la même tête.
À Lyon, oui.
Il y a 30 ans. 30 ans. Balle 30 ans.
Non. Bon. On évoque dans ses bouquins tous ces kélim qui sont maintenant Est-ce qu'on parle de l'esprit de la loi ou la loi directement?
La loi directement.
Parce que l'esprit de la loi, quand tu lis Richon, c'est presque carrément... Ça reste quand même un Kelly Richon. Si tu prends de l'eau, tu mets dans un thermos. L'eau, elle est quasiment à la même...
On va en parler. Attends, j'ai compris. Hein. C'est, là, je donne seulement la généralité du Shulchan Aruch. Ouais. On va en parler. Après, on va parler de tous les cas modernes qu'il y avait à l'époque à 30 ans. Donc, on avait déjà le gaz, on avait déjà la plata, on avait déjà beaucoup de choses. Par contre, il y a des cas qu'on ne connaissait pas encore à l'époque. Par exemple, le croque-pot. On connaissait pas le croque-pot à l'époque.
Le croque-pot.
C'est pas le croque-pot. Il envoie un croque-pot.
C'est quoi?
C'est le. Il envoie à côté des plata, tu verras.
Voilà.
Marmite électrique.
Ah, t'as passé un croque-pot.
Ah, marmite électrique.
C'est pas le croque-pot.
C'est pas une marmite. Il y a la céramique qui est posée à l'intérieur.
À l'intérieur.
La date, tu l'as fait dans quoi?
D'accord.
Ah, tu fais pas la date.
Je suis pas la date.
Et n'importe quel cholent.
Oui, oui. Alors on verra que le croque-pot.
C'est pas une date, on en fait 10.
Moi je l'appelle le croque-pot parce que c'est son nom, hein. c'est là-bas que ça vient. Le croque-pot, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Dans beaucoup de cas, ça assomine la Torah. Mais bon, on y arrivera, Bézrat Hachem. Ça, c'est un cas. Oui. Ah oui, dans beaucoup de cas, ça assomine la Torah. D'accord. Je sais pas comment ils sont les boutons chez lui, mais si les boutons sont accessibles, c'est déjà assomine de Rabanan. Est-ce que le bouton est accessible à la main facilement? Bon, on y arrivera, Bézrat Hachem. C'est compliqué. Oui, mais il est comment le bouton?
Faut pas répondre, faut pas le changer.
Un bouton, bon. Il y a écrit dessus automatique.
Ne répondez pas, c'est mieux.
On veut pas répondre. J'ai même pas compris ce que t'as dit là.
Tu parles d'une autre marque.
Alors,
parce que ça veut dire qu'on peut tout être amené à se dire tiens, c'est pas suffisamment.
Pour couvrir le bouton.
Mais la plata, il y a la prise qui est accessible aussi, etc.
Oui, mais il n'y a pas de bouton.
Il n'y a pas de bouton.
Par définition, il n'y a pas de bouton.
Il n'y a pas de bouton, il a raison.
On touche pas le bouton.
Ah
oui.
Écoute, il ne faut pas oublier que cet appareil-là, il y a un bouton là sur notre
bouton. Oui, mais il y a un bouton on-off. Il y a pas
aussi.
Non, si...
il y a peut-être un bouton de
un bouton pour augmenter la chaleur. Ah, ça dépend. Je dis, ça dépend.
Parce qu'il faut pas que c'est
parce que moi une fois j'ai acheté un croque-pot, comme ça. Il y avait le bouton, d'accord. Le bouton pouvait régler la température. Dans ce cas-là, la seule permission de l'utiliser est encore. Et encore parce qu'on verra après ça dépend, hein. D'accord.
C'est
de le couvrir. Non. Ah. De le couvrir avec de l'aluminium de manière à ce que il soit pas accessible directement.
C'était pas un croque-pot.
D'accord. Si c'est un croque-pot. Bien sûr, je devais inventer certainement. Alors.
Approche le plateau là.
C'est un appareil, c'est sûr de croque-pot, c'est un appareil qui n'est fait que pour les Shabbat ou comme
non,
la
Kata. Non, pas du tout, ça est vendu chez les Goyim aussi.
Alors ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs catégories.
Bien sûr. Moi, dans celui que j'avais acheté, il y avait plusieurs. Il y avait plusieurs
températures. Il faut acheter ça avec la Hashgacha dessus, non? Il y a pas des, il y en a pas, ils n'en vendent pas avec des
Hashgachot.
Peut-être
un
Hashgacha, je sais pas. Alors, donc ça c'est, on y arriverait qu'il y a beaucoup de Halakhot. Halakhot de Bichoul, c'est des Halakhot très compliquées. Très compliqué. Quand j'étais au collège, on a passé pratiquement un an dessus. Sur la croix de Bichoul. C'est très compliqué. C'est-à-dire, quand on utilise un Shulchan Aruch avec les Rishonim, la Charonim, etc. Et la Gemara, c'est très compliqué. Mais bon, nous on va essayer au moins de tirer les conclusions.
Bon, c'est plus compliqué que Borer.
Oui, c'est beaucoup plus compliqué que Borer.
Non, compliqué déjà.
Borer, on va dire Borer, c'est plus abstrait. C'est pour ça que Borer, on a essayé de mettre des généralités, de mettre des principes, d'accord. On a expliqué trier, choisir, etc. Mais Bichoul, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de détails. C'est plus accessible, mais il y a beaucoup plus de détails. Tu vois, là, par exemple, on a déjà 5 catégories d'ustensiles. Comment tu fais 5 catégories d'ustensiles? Ça complique déjà les choses. Imagine-toi toutes les possibilités, toutes les probabilités qu'on peut avoir maintenant. Bon. Ensuite, encore, on va compliquer encore les choses. On doit différencier différentes catégories d'aliments. Est-ce que l'aliment est liquide? D'accord. Mais pourquoi il est liquide? D'accord. Est-ce qu'il est liquide? Est-ce que c'est quelque chose qui est liquide qui n'a pas encore été assez cuit? Est-ce que c'est quelque chose qui est liquide qui a déjà été cuit mais qui est resté chaud?
Son état est liquide.
D'accord. Ou bien c'est quelque chose qui a entièrement été cuit et qui a refroidi. D'accord. Et qui est humide. Donc on verra après qu'il y a différentes. On verra après qu'un aliment qui est humide et un aliment qui n'est pas humide, c'est pas la même chose. Un aliment qui est humide, la majorité des aliments sont humides. Majorité. D'accord. Enfin, en tout cas, ils ont une humidité qu'on peut toucher, la majorité, sinon c'est sec. Donc ça s'appelle d'avoir l'ar, quelque chose qui est humide. Alors on verra, il y a différentes catégories d'humidité. Est-ce que c'est humide? Est-ce que ça a déjà été cuit? Est-ce que ça n'a pas été cuit? Et d'un autre côté, on a ce qu'on appelle ma'achal yavesh, un aliment qui est sec. Un aliment qui est sec, quand?
Voilà.
Alors pareil, on a deux catégories. On a un aliment sec qui n'a jamais été, qui n'a pas été cuit, et un aliment sec qui a été cuit. Qui a déjà été cuit. Donc par exemple, voilà l'exemple classique, l'achala, c'est un aliment qui est sec. D'accord, mais qui a déjà été cuit.
Oui, il y a aucun problème pour le mettre.
D'un autre côté,
pour le mettre.
D'accord. D'accord. Davar yavesh, donc ma'achal yavesh, une chala par exemple, c'est un aliment qui est sec mais qui a déjà été cuit. Mm-hmm. D'un autre côté, on peut avoir un aliment sec qui n'a jamais été cuit.
Par exemple.
Je sais pas. Par exemple, une pomme de terre. Sec, jamais été cuite.
C'est bouillie, une
Quand elle est, vous l'avez épluchée.
C'est mouillé.
Non, elle est pas humide, pas du tout. Vous la touchez, c'est pas mouillé. Vous
pouvez mouillez... faire un jus de patate.
Très bien, mais quand vous la touchez...
Bon, un AV, c'est mouillé un AV.
Non, mais il a raison qu'il y a toujours l'humidité, c'est sûr.
Oui, d'accord, mais c'est pas dans le sens...
C'est comme le hétrog, enfin c'est comme tous les... Le hétrog, on voit clairement comment...
Elle est pas humide, c'est l'amidon qui touche.
Quand je dis qu'elle est pas humide, c'est-à-dire qu'au toucher, on se mouille pas.
Bon.
D'accord. Donc il y a d'avoir yavesh et d'avoir l'arc. Une challah aussi, c'est humide. C'est quoi, qu'est-ce qui fait la différence entre du pain rassis et du pain qui est normal? Il y a de l'humidité dans le pain, c'est évident.
Mm-hmm.
D'accord? C'est ce qui fait la fraîcheur des choses.
Mm-hmm.
Bon. Néanmoins, ce que j'appelle sec et humide, c'est est-ce que quand je touche, c'est humide ou c'est sec? Est-ce que je me mouille les mains ou pas?
D'accord.
Bon. Alors vous verrez que c'est compliqué. Parce que par exemple, une challah, prendre une challah et la poser sur la plata, c'est pas la même chose que prendre un aliment qui a déjà été cuit, du style, je prends par exemple
une soupe,
même pas une soupe, je prends mon plat de poulet. Je le pose sur la plata. Je dis, il a déjà été cuit, c'est quoi le problème? Sauf que comme il est humide, s'il était froid, le fait qu'il va réchauffer, c'est considéré comme si je viens de cuire.
Voilà, mais si tu poses les chalotes sur...
On verra. Moi, je ne fais pas les chalotes. Mais bon, parce que ça, je suis un minac particulier. Pour les sfaradines, c'est permis, pas de problème.
Les mettre les chalotes sur le...
Moi, je le fais pas. Ouais.
Moi, je me posais la question parce qu'une fois, on a mis les chalotes et...
Moi, les chalotes...
Et on l'a mis sur un truc d'aluminium. Mais ça peut, des fois, le rendre...
Il y a des bouts de givre qui peuvent tomber.
Non, pas des bouts de givre.
Pas du congèle.
On ne les congèle pas à la maison. Bon, après, ça, c'est notre propos. Mais quand tu les mets, elles deviennent...
Noires.
Alors
C'est comme si
sur un truc d'aluminium.
Elle est déjà cuite.
Elle est déjà cuite.
Ça fait rien, elle va durcir.
On verra, il y a beaucoup de généralités.
Mais une grille.
On verra par exemple que est-ce qu'on peut avoir à l'arrichement une cuisson après une autre cuisson.
Est-ce que c'est...
Non.
Eh ben oui.
Oui. Une cuisson après une cuisson.
Une seconde cuisson.
Une fois que c'est cuit, c'est cuit.
Ah non, pas du tout.
Après tu le.
La preuve, c'est qu'on peut dire bien cuit. On te sert un plat, tu dis non, je le veux bien cuit. Remettez-le sur le feu. Donc on peut avoir une cuisson après une autre cuisson. Alors est-ce que selon la Torah, quand on recule quelque chose, c'est considéré qu'on a fait bichoul.
Voilà.
D'accord. J'ai déjà dépassé 15. Ça y est, c'est cuit. On peut le manger. D'accord. On verra tout ça à la crotte là. C'est très compliqué.
On verra 5 ans.
Ouais, mais alors excuse-moi.
Dans les semaines qui suivent.
Non, parce que là,
excuse-moi.
Il faut manier, c'est Shabbat tout à l'heure.
Alors tout ce que tu vas mettre sur la cuisson, sur la plate, ça peut recuire alors. Donc c'est autorisé, puisque par défaut tout peut recuire. Tu vas mettre du poulet sur la plata,
Mais je l'ai mis avant Shabbat.
Non, quelque chose de dur que tu peux mettre, comme tu dis, du riz.
Allez, une casserole de riz
oui.
qui a été cuite.
Mais je l'ai mise avant Shabbat.
Et donc si ça recuit, c'est pas grave.
Mais si c'est avant Shabbat, c'est pas grave, c'est pas mes affaires ce qui passe avant Shabbat.
Non, on n'est pas en train de parler de ça maintenant. Ouais. On est en train de
tu veux
dire
faire réchauffer
que
quelque
pendant
chose,
Shabbat, tu veux ça, faire réchauffer... la casserole avec le riz, et on se dit, il est froid. Je voudrais qu'il soit chaud. Bon. Voilà, c'est ça ce qu'on est en train de
mais
dire.
Mais le problème avec votre riz,
oui, bien
très bien. Le problème avec votre riz, c'est que votre riz, c'est d'avoir l'arc, il est humide.
Il est encore moins humide que ton poulet, hein. Comme des graines de couscous.
Il est
prêt à être mangé. Il est froid.
Donc il est plus humide.
Ben oui.
Non mais il est cuit.
C'est-à-dire vous le touchez, vous vous mouillez pas.
Non, il peut coller un petit peu au doigt, mais...
Vous touchez, il n'y a pas d'humidité dans vos mains.
Ben non. Comme du couscous.
Non, la semoule, il n'y a pas d'humidité. Hein.
Non, la semoule, non, mais le riz, vous touchez
pas,
le riz.
C'est la même chose.
Ben alors il y a de l'humidité dans tout, donc on ne peut rien mettre pendant sur la plaque.
Vous touchez le riz, vous mouillez pas les mains.
Ben non, c'est pas une soupe, quoi, c'est du riz.
Essayez de toucher du riz, vous allez avoir les mains mouillées. Bien sûr, vous allez avoir les mains mouillées. Un petit peu humide. L'humidité.
Bon, écoute, il faut non. que ta femme elle prenne des cours de cuisine.
Quoi?
Non, parce qu'elle fait manger le riz dans l'eau, tu sais.
Non. C'est sûr que le riz doit s'évaporer. Bien sûr que l'eau doit s'évaporer.
Un mais
le
riz nature, tu demandes à Sushi West, il va t'apporter un cube comme ça, tu le mets à l'envers, il est sec.
Il est sec.
Non, il est pas complètement
il est pas
sec. Il est pas sec, non, il a raison, il est pas sec.
Bien sûr qu'il est humidité.
Mais alors on pourrait mettre sur la plata pendant Shabbat, alors donc c'est juste un tout petit peu humide.
Mais pas dessus direct.
Alors quoi, la semoule c'est pareil alors?
Non, la semoule c'est pas la même chose.
Parce que
la semoule, tu touches la semoule, tu ne te mouilles pas les mains. Essaye de prendre
la même chose. Il y a la même humidité.
Le riz qui est bien cuit, tu ne te mouilles pas les mains.
Tu humidifies les mains, bien sûr qu'il y a de l'humidité.
Comme la semoule, le couscous.
Bon, on y arrivera. D'accord. Là, pour l'instant, on donne seulement les généralités.
En tout cas,
on a expliqué qu'il y a différentes catégories d'ustensiles. Il y a les ustensiles, donc les rishon, les clichini, etc. Et on a expliqué aussi qu'il y a différentes catégories d'aliments. Il y a des aliments qui sont humides et des aliments qui sont secs. Ce qu'on a expliqué. Bon. Maintenant, quand on parle de feu, d'accord? Quand on parle de feu, ce que j'entends le feu, c'est pas seulement du feu à proprement parler, c'est-à-dire du feu, une flamme de feu. Ça peut être aussi du gaz, d'accord? Ça peut être une plate électrique. Ça peut être le feu à la vapeur, d'accord? C'est-à-dire ça peut être donc la cuisson par la vapeur. Tout ce qui, il y a pas de différence, d'accord? Et de manière générale, il n'y a pas de différence aussi, peu importe si la source de feu est couverte ou n'est pas couverte. Sauf si on dira le contraire. Dans les cas où on dira le contraire, il y aura une différence. Mais en général, il n'y a pas de différence.
Tu m'entends par là. C'est-à-dire si c'est une flamme,
par exemple, dans la cuisson par la vapeur, d'accord, c'est pas forcément que la source du feu soit visible. Il y a peut-être une plaque dessus. Et que moi, je vais cuire seulement avec la vapeur. C'est la cuisson, comme le saumon fumé. C'est cuit par la vapeur. D'accord, c'est fumé. C'est par la fumée. Bon. Donc, c'est pas forcément que la source de feu était visible. Peut-être que la source de feu est cachée.
Ça peut être même un liquide, puisqu'on verra qu'avec du jus de citron, ça cuit.
Oui, c'est encore autre chose. D'accord. Mais là, pour l'instant, dans la lachot de Bichoul, on parle de feu. Oui. Bien sûr, le sel, ça cuit aussi.
Les marinades, c'est ça, hein.
Oui, ça cuit, ça rentre dans la catégorie acide de
bois. Le sel, c'est cuit. Ah, ça rentre pas dans l'acide de bois, d'accord, ouais. Mais ça cuit, le sel, c'est cuit. Tu prends quelque chose, tu le macères dans le
salé, là.
Ah, ça cuit, c'est clair, c'est cuit.
Et le garde longtemps.
Tu prends du poisson, d'accord. Tu prends du poisson, tu le macères dans le sel pendant une semaine, tu le reprends, il est cuit. C'est cuit.
Oui, c'est vrai.
D'accord. Alors.
C'est une technique de cuisson.
Bien sûr, ah non, ça cuit, hein. ça cuit à 100%.
Hein. C'est comme ça qu'on conserve. Bon,
c'est un goût très salé, mais ça sera cuit.
Oui, les bisons avec les chiennes, c'est comme ça. Les bisons,
le sel. Alors, bon, donc maintenant on a compris ces généralités. On continue encore dans la généralité de Bichoul. On avance encore 2-3 minutes et on s'arrête.
Il commence à parler des trucs.
Chez les chiennes,
bisons, bizarre.
Alors, Ok. Alors, maintenant, autre chose qu'il faut comprendre, c'est que il y a une différence. La généralité que j'ai dit de Yad Soleil Dedbo, c'est-à-dire qu'il faut que l'œil sourd de la Torah, c'est seulement si on a chauffé jusqu'à que Yad Soleil Dedbo, que la main se brûle, c'est uniquement sur tout ce qui est liquide. Mais sur ce qui est sec, on ne peut pas donner cette généralité. D'accord ? Parce que Yad Soleil Dedbo, le fait que la main doit se brûler quand on est en contact, c'est une généralité qui a été donnée seulement pour ce qui est humide. D'accord, donc tout ce qui est humide, c'est-à-dire que tout ce qui est humide, tout ce qui est liquide, tout ce qui, donc en général, voilà, tout ce qui est liquide.
Alors attends, on parle de l'eau par exemple, ou on parle du récipient dans lequel il y a l'eau?
Non, on parle de l'eau.
Et il faut que tu mettes ton doigt et que tu fasses... Aïe.
Oui, d'accord.
Donc, des fois, un simple robinet d'eau chaude qui
oui,
a de l'eau, on se brûle.
Bien sûr, vous avez raison. D'accord. Ça c'est la définition, d'accord. Ça c'est la définition pour d'avoir l'art. Quand c'est quelque chose qui est humide, la définition c'est qu'il faut que quand je touche, d'accord, quand je touche, ça me passe pas. Maintenant, quand c'est quelque chose de sec, c'est quelque chose de sec que j'ai envie de cuire. La définition, c'est qu'il faut qu'il soit mangeable par Ma'achal ben Drusai. C'est quoi Ma'achal ben Drusai? Ma'achal ben Drusai, ça veut dire c'est le manger des voleurs. À l'époque, il y avait un grand voleur, tu sais, Al Capone, hein, qui s'appelait Ben Drusai. Tu parlais Ben Drusai, c'était le Al Capone, tout le monde le connaissait. Et donc, les voleurs, eux, ils n'ont pas le temps de préparer à manger, ça prend trop de temps.
Il y a quand même un Sroute, on cite son nom 2000 ans plus tard. Attends.
Donc Ben Drusai, c'était un grand voleur. Et ils n'avaient pas le temps, les voleurs, de préparer à manger, de prendre le temps qu'ils prenaient. Donc c'était même pas à moitié cuit, c'était à un tiers cuit. D'accord ? Un tiers cuit, et un tiers cuit, c'est déjà mangeable.
C'est vrai ?
Ouais. D'accord ? Alors, il y a un tiers mangeable, et après on a Mevushal Kol Tsorko. Mevushal Kol Tsorko, ça veut dire cuit à point. Donc vous imaginez qu'entre les deux, il y a une grande marge. Mmh. D'accord ? Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que quand je prends un aliment qui est sec, il n'est pas cuit, et je le pose sur une plate à part pour le chauffer, et qui va chauffer un petit peu, mais qui va arriver à un dixième de la cuisson. Est-ce que j'ai fait une avéra de la Torah ?
Non.
J'ai rien fait. Par contre, dès que ça arrive à un tiers de la cuisson, je viens de faire une avéra de la Torah. Et ensuite, chaque partie de la cuisson qui se rajoute, je fais encore une autre avéra de la Torah. Jusqu'à quand ? Jusqu'à que la cuisson arrive à point.
Après, on est tranquille.
D'accord ? Dès que la cuisson arrive à point, c'est fini. Après, si tu veux brûler ton aliment, ou bien si tu veux très très bien le cuire, ça c'est fini. Donc, vous voyez, ça complique encore les choses. Ça, rajoute, ça nous rajoute encore des tas de probabilités, tout ça. Ah oui.
Bon. C'est surtout le problème du biberon que tu mets dans, le, d'accord, dans l'eau le Shabbat.
Non, mais.
Dans, la casserole est sur la plata. À combien elle est l'eau,
oui, c'est ridicule de le mettre. Ah. Bon, sur une casserole qui est sur la plata.
Non, dans l'eau, dans la casserole,
on le sort.
Bain-marie.
Oui, bain-marie. Non, mais dans le bain-marie directement.
Alors, on va analyser le bain-marie ensemble. C'est quoi le bain-marie?
C'est une juive qui a inventé ça.
D'accord. C'est, chier, hein. Oui. C'est quoi le bain-marie?
Marie.
Dans le bain-marie, je prends de l'eau qui est du koumkoum, je le verse dans un keli. Donc le keli est déjà un klishéni.
Attends, toi tu dis ça, mais il y en a qui font directement dans le klishéni.
Seconde, ben non.
Klishéni, tu peux si ça approche qu'il y a sous le dos.
Comment tu fais dans le klishéni?
Ah ben. T'as ton truc, tu mets ton biberon directement dans le kélérichon.
Oui, alors.
T'attends pas longtemps, le biberon ne sera pas très chaud.
Alors.
Il sera tiède.
Il y a une Alors, ce qu'il faut comprendre aussi qu'on verra après pour le koumkoum, c'est qu'il y a une exception pour le koumkoum, c'est que d'après beaucoup d'avis, étant donné que l'eau qui est sur le koumkoum est extrêmement chaude et qu'on se sert directement du koumkoum, ça serait pas le koumkoum qui est kélérichon, mais ça serait le verre qui devient kélérichon.
Tellement c'est chaud.
Tellement c'est chaud. Donc ça complique les choses encore plus.
Ah oui.
C'est-à-dire que là, on décale tout.
On décale tout d'un
suivant certains avis.
Oui. On y arrivera.
Ça devient compliqué.
D'accord. Ça devient compliqué. Et tout de suite, ça complique.
Parce que nous, on a un petit bro en dessous.
Non, mais je comprends bien que si tu laisses le biberon trop longtemps et qu'il dépasse la température de 45, ça fait une avéra.
Oui, mais le bébé, il va se brûler de toute façon.
Mais si, par exemple, tu l'arrêtes, le lait est à 20 degrés, par exemple.
Oui.
Ça fait d'avéra en mettant dans la
dérive. Non, ça fait d'avéra.
Voilà. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de thermomètre là-dessus, nous. C'est pas, hein.
On sait que 45 degrés, quand même, c'est très chaud.
Ah non, c'est pas chaud, 45 degrés.
Non.
C'est pas très chaud.
Si, mais ça suffit. On peut, c'est à la limite de se brûler les muqueuses.
Oui.
Si, si.
Non, quand tu le
sors à 37 degrés.
Quand tu le sors quand il est tiède, ça va. Faut faire attention.
Mm-hmm.
Faut faire attention. Alors l'idéal, ça serait effectivement de mettre dans un klishéni sec.
Non.
Parce qu'on dit, il n'y a pas de besoin d'un klishéni.
Pas besoin d'un klishéni sec. Parce que on va expliquer après que par définition, quand tu mets dans un klishéni, on considère que ça peut pas monter à cette température.
Voilà, donc tu mets ton biberon dans le kélichéni.
Ça dépend du kélichéni. S'il a des propriétés...
Oui.
Ça dépend du koumkoum.
Ah oui, ça va.
D'accord, donc c'est compliqué. Bon, on continuera, je vais m'arrêter ici parce que c'est déjà l'heure, on continuera à être attaché la semaine prochaine. Comme en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, j'essaie de vous montrer la complexité de la croix de Bichoul.
Et par exemple, il y a un,
on va essayer de...
il y a un biberon.
Oui.
Pour un bébé.
Oui.
Et tu veux le réchauffer.
Pareil, oui.
Tu peux le réchauffer.
Moi, comment je fais? Je vous explique comment je fais. Je prends le koumkoum. D'accord. Je verse dans un ustensile. D'accord. Et si possible, de cet ustensile, je verse encore dans un autre. C'est encore très chaud, là, encore très chaud. Ouais. Et dedans, je mets le biberon. J'ai l'assurance que le biberon ne montera pas à 45 degrés.
C'est dans le chichi, là.
Ouais. J'ai l'assurance que le biberon ne montera pas à 45 degrés. C'est impossible.
C'est bon, c'est bon.
Il peut pas monter à 45 degrés.
Tu m'as répondu sur deux choses.
Voilà.
Parce que j'ai entendu cette semaine, il s'est fait refroidir, il a fait un cours de Rav Gay.
Oui.
Sur, de Bichou, de tout ce qui s'enfuit. Et il m'a expliqué comme toi. Pour
pas,
biberon,
pas moi, c'est pas moi ni le Rav Gay, c'est le Shulchan Aruch.
Non, mais. Non, tu m'as pas. Non. C'est le genre de.
Oui,
le genre du Rav Gay. Ils font des cours à Neuilly.
Très bon cours. Très bon cours.
Vraiment, des cours. Et ils font des tréfilotes. Vraiment.
Plus c'est gros, plus c'est
rigolo. Donc, je suis en train de dire. Pour vous montrer la complexité de la croix de Bichoul. La complexité de la croix de Bichoul et comment, très rapidement, on peut faire des interdits, sans se rendre compte. Non, non, c'est pas, non, c'est en fait, on sait pas quoi on en fait.
C'est la dernière fois, moi j'ai un.
Vous savez, dans Bichoul, on arrivera.
Ouais. J'ai mis le doigt après, j'ai pas regardé, il y avait peut-être un fond d'eau que.
On verra après.
Tu vois?
On verra après que, par exemple, dans la croix de Bichoul, même faire un café, ça peut poser un problème. Parce que, est-ce que les grains de café qu'on a sont entièrement cuits?
Le lyophilisé est obligé.
D'accord.
C'est sûr.
Mais est-ce que les autres grains sont entièrement cuits? C'est pas forcément qu'ils sont cuits. Il y a des fois du café ou du thé des fois qui n'est pas entièrement cuit et on compte sur la chaleur du café pour le cuire entièrement et pour faire sortir le sortir. Donc on verra que ça peut poser un problème ça aussi.
Ah oui. C'est pour ça que on met le café dans
le sucre
et ensuite on met
le sucre.
Est-ce qu'il cuit ou est-ce qu'il
fond? Alors le sucre normalement
c'est un minéral.
C'est un minéral mais il est déjà cuit. Quand le sucre qu'on a, il est déjà cuit, il est déjà travaillé. Alors donc on va rentrer dans les cuissons après une cuisson. Vous voyez, c'est beaucoup de cas très modernes et très pratiques dans lesquels on va rentrer.
Attends, excuse-moi, mais je vois très souvent des gens prendre la poudre du café et la verser sur l'eau.
Ouais.
Et moi, ça sert à quoi?
C'est ce que tu m'as dit, hein.
J'ai toujours mis la poudre au fond du verre et je verse l'eau
par-dessus.
Et ça me choque, et il y a des gens qui disent, non, c'est, il faut faire comme ça, viande, dans des problèmes de coloration, de trucs, il y a des trucs.
Non, coloration, ça change pas, de toutes les façons, ça aurait été interdit. Bon. Non, il n'y a pas de problème de coloration.
Si tu verses une grosse quantité d'eau chaude sur une petite quantité, tu risques le cuir.
Avec le oui, mais là, on parle du café
lyophilisé. Alors, quand tu le mets par-dessus, il n'y a pas de ce risque de cuisson. Comme ça.
Oui, mais bon, encore une fois, ce qu'on va expliquer, c'est que justement, c'est que, il y a pas une fois qu'on est dans le cuisinier, il n'y a plus ce risque de cuisson.
On n'a plus le risque, voilà. Donc, tu mettrais le café au fond.
Oui.
Mais si tu le fais dans le cliché, tu veux dire, il n'y a plus de risque.
Non. Je fais dans cliché. Oui.
Voilà. Mais il y en a qui disent qu'a priori dans la chenille il n'y a pas de risque de cuisson.
Oui. Mais ça dépend. La question est, ça dépend ce que tu considères cliché. Parce qu'il faut savoir que le koumkoum, on verra d'après beaucoup d'avis en Shulchan Aruch, le koumkoum, étant donné qu'il est sur le feu, d'accord, c'est niveau 0, c'est pas niveau 1.
C'est le feu lui-même.
C'est le feu lui-même. Et que c'est le verre qui deviendrait Kirishon.
Quand tu fais une daf sur la plata, l'ustensile dans lequel il y a la daf, c'est le Kirishon.
Non. Parce que ce qu'il y a de particulier dans la daf, c'est que la daf, tu enlèves la marmite.
Ah non, mais attends, il parle du croque-pot, là, vous parlez de quoi?
Non, c'est pas grave. Une fois que tu enlèves la marmite, là, ça devient un clérichon. Et le problème qu'il y a du concombre, c'est que l'ustensile reste sur le feu.
Il reste allumé.
Il reste sur le feu. C'est pas comme la marmite. Dans le cas de la marmite, j'ai enlevé la marmite. Et je vais me servir de la marmite, mais entre-temps, la marmite, elle a perdu de la chaleur. Tu sais comment tu vois ça? Prends une... T'as déjà fait des pâtes par exemple, quand tu fais chauffer de l'eau à ébullition.
Ouais.
Éteins le feu et regarde ce qui se passe.
Cuire.
Non mais regarde ce qui se passe.
Une purée.
Est-ce que l'eau elle continue à bouillir?
Elle s'arrête.
Hein.
Tout de suite, elle s'arrête. Merci. Comment ça se fait, elle s'arrête?
Je fais pas de pâtes et je crois que ça te
marre. Pourquoi elle s'arrête tout de suite?
Parce que la température baisse.
Mais en une fraction de seconde, la température baisse?
Oui, parce que l'eau, d'accord, elle a c'est que l'eau elle boue à 100 degrés. À 99, t'as pas 120.
Mais tu peux être à 120.
Non, tu peux jamais avoir 120. Tu as
120. 120 et tu
on parle du feu. On parle du feu hêche en dessous.
L'eau elle boue à 100, elle s'évapore au-dessus.
Oui.
Donc il n'y aura jamais l'eau à plus de 100.
Oui.
Sauf si elle est sous pression.
La marmite sur la patate, c'est pas qu'elle est riche.
Attends,
dans une cocotte,
non. Tant qu'elle est sur la marmite, c'est pas clair. On verra après.
Justement, c'est le principe de la cuisson.
Alors,
de pression.
J'étais en train de vous expliquer. Pourquoi je vous ai amené cet exemple-là? Pour vous montrer que tant qu'un ustensile est sur le feu, on voit bien que dès que j'arrête le feu, tout de suite c'est moins chaud. Tout de suite, instantanément.
Oui.
Donc c'est pour ça que j'ai amené pour vous montrer que d'après beaucoup d'avis, on verra après, tant que le koumkoum est sur l'eau, sur le feu, c'est même pas clirichon, c'est niveau zéro. Parce que c'est encore très très chaud. Et ce serait mon ustensile qui deviendrait clérichon.
Celui-là n'est jamais à 100 degrés. Parce que le principe de celui-là, c'est qu'il se balade entre 80 et 90.
Si, mais il monte une fois à 100
quand
degrés.
Il descend à 80, il se remet en marche, et il va jusqu'à 90, et il s'arrête. Il fait que ça.
C'est 80, pour boire un café Shabbat, il faut que tu
sortes. Excusez-moi, la manière dont il marche celui-là, c'est qu'il monte une fois à ébullition, et après il maintient la température. Et si, il faut laisser...
Oui, mais il peut pas.
Si.
Oui, mais il ne peut pas la maintenir. Toutes les demi-heures, il se remet en marche.
Il l'amène à ébullition. Vous pourrez voir.
Je ne sais pas si ça boue.
Si. Il l'amène à ébullition et il arrête. Bon, et après, il la maintient.
Si tu veux. Pour que tu boives un café de toi, Chabaz, il faut 4 ustensiles alors.
Non. Pourquoi 4 ustensiles?
Ah bah, celui qui est sur le feu, c'est un 0.
Oui.
Tu le mets dans un premier.
Non.
Dans un deuxième et dans un troisième.
Ah non, dans un deuxième. Ça y est. Mon deuxième, c'est déjà... Qu'est-ce que je fais?
Un troisième, puisque
je verse d'abord dans un verre.
Ça c'est un.
D'accord.
Alors c'est dans un.
Voilà. Ensuite, je reverse dans un autre.
C'est d'accord. deux.
Voilà. Et après de celui-là, je remets à l'intérieur.
Le café.
Ça fait trois, mais ça peut être les mêmes ustensiles.
Ah, faut les sécher à chaque fois.
Quoi?
Faut les sécher.
Non. Ça peut être les mêmes ustensiles parce qu'on considère qu'à chaque fois que les parois refroidissent. Chaque fois qu'il y a un contact avec les parois, ça refroidit.
Oui, mais s'il y a un peu de liquide dans le.
Pas grave. Parce que au moment où je reverse, c'est déjà un troisième kéli.
D'accord.
D'accord.
Ça dépend si tu mets pas beaucoup de temps pour le faire. Parce que t'es au-dessus de 45.
Oui, normalement
c'est
non.
Très, très chaud.
Normalement, les parois ça refroidit très vite. D'ailleurs, c'est la preuve, c'est que tu peux le boire. D'accord.
Tu vois, comme ça.
On s'arrête ici, on continuera la semaine prochaine.